RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, on commémore cette semaine au Proche-Orient l'anniversaire de la guerre des six jours. Une guerre éclair qui a marqué le début de la longue occupation militaire israélienne des territoires palestiniens qui dure depuis 50 ans. Hébron, à 30 km au sud de Jérusalem, est une ville symbole du conflit israélo-palestinien scindé en deux depuis 1997, parsemée de checkpoints et sous tension permanente. C'est la seule ville de Cisjordanie à être colonisée de l'intérieur par les Israéliens. Près de 800 colons protégés par 2000 soldats cohabitent avec des Palestiniens dans un quotidien émaillé de violence. Un terreau de haine à l'image de ce conflit inextricable. Hébron, l'impossible destin d'une ville divisée. Grand reportage signé Marine Blaovic.
À l'ombre d'un checkpoint, des Palestiniens et des soldats israéliens se regardent en chien de faïence tandis que des colons passent au loin. Posté à quelques mètres, Moutassem Aslamoun lève les yeux au ciel.
Tu as vu là-bas, il y a des snipers. L'armée se positionne sur les toits.
Une scène presque banale à Hébron, selon le jeune Palestinien.
La situation à Hébron est particulière parce que l'armée israélienne est au milieu de la ville. Dans d'autres coins de Cisjordanie, on peut voir l'occupation près des colonies, dans des zones inhabitées ou dans des villages, mais pas au cœur des villes palestiniennes. Ici, on ne peut pas l'éviter.
Ici, impossible en effet d'échapper à la phase visible de l'occupation, ou tout du moins dans un secteur donné, car le checkpoint 56, ce jour-là interdit d'accès aux Palestiniens pour cause de fêtes juives, marque la frontière d'une ville scindée en deux. D'un côté H1, la vibrante capitale économique de Cisjordanie, où vivent 170 000 Palestiniens. De l'autre, H2, le centre historique placé sous contrôle direct de l'armée israélienne. Un territoire de quelques kilomètres carrés, truffé de checkpoints, de miradors, de barbelés et parsemé de minuscules colonies. Moutassem est l'un des 5000 habitants palestiniens d'H2. Le jeune professeur s'enfonce dans les ruelles d'une vieille ville déserte.
On rentre dans la vieille ville que l'on appelle la ville fantôme, car durant la nuit, c'est vraiment une ville fantôme. Les habitants ne sortent pas de chez eux et personne ne vient ici, car les soldats patrouillent dans la zone et contrôlent tout le monde. Ils importunent les Palestiniens, donc ils ne reviennent pas.
Un cœur historique à peine plus vivant le jour. Soumis à un couvre-feu permanent durant la seconde intifada, il a été peu à peu déserté par les Palestiniens. Près de 1700 commerces ont baissé leurs rideaux au cours des 15 dernières années. Sous les passages voûtés du souk, le silence règne. Les pas de Moutassem résonnent en écho. Mais ne le mène nulle part.
Tout est fermé. Les soldats bloquent la première porte et le checkpoint aussi. Toute la zone est bouclée sur ordre militaire. Donc impossible pour les Palestiniens de passer.
Derrière le point de passage aux portes métalliques s'érige un bâtiment aux murs crénelés, objet de toutes les convoitises aux multiples appellations. Mosquée d'Abraham pour les musulmans, caveau des patriarches pour les juifs. Selon l'Ancien Testament, c'est ici que reposent Abraham et ses descendants. Un lieu saint divisé, aujourd'hui entre une mosquée et une synagogue. Au pied de cette dernière, l'on trouve un magasin de souvenirs.
Good morning people, welcome to Meharat HaMakhelah, c'est Lyon de Avon.
Où se pressent des fidèles juifs, de plus en plus nombreux chaque année, se félicite Noah Marnon, porte-parole des colons d'Hébron.
This is the second holiest and important site for the Jews in the whole world.
C'est le second lieu saint le plus important pour les juifs du monde entier. Le premier lieu saint, c'est bien sûr le mont du Temple, à Jérusalem. Et le deuxième est ici, même s'il est plus ancien et de plusieurs milliers d'années. C'est en fait ici que se trouvent les racines des Juifs du monde entier qui les relient à leur identité et à leur patrie. Cet endroit est naturellement israélien, donc il doit faire partie de l'État d'Israël, c'est sûr. Hébron a été libéré. Avant 1967, nous n'étions pas autorisés à venir ici. Les Juifs sont revenus, ont reconstruit le quartier juif, la synagogue, ils ont tout reconstruit et ont proclamé clairement « Les Juifs sont de retour ».
Libération pour les colons, occupation pour les Palestiniens, la guerre des six jours a marqué le début d'une longue ère de domination militaire des territoires conquis par Israël. Une brèche dans laquelle se sont engouffrés les premiers colons. C'est à quelques centaines de mètres du tombeau des patriarches qu'un soir de 1968, une poignée de nationalistes religieux a occupé un hôtel pour ne plus jamais repartir d'Hébron. 50 ans après, ils sont environ 800 à vivre dans 5 ensembles de bâtiments. Des colonies illégales selon le droit international, financées en partie par des fonds privés américains et gérées depuis une mairie où Noam Arnon s'occupe des affaires courantes.
C'est la municipalité de la communauté juive d'Hébron. Qu'est-ce qu'on y fait ? On gère l'approvisionnement en eau, l'éducation des enfants, l'urbanisme, le tourisme.
Des touristes israéliens qui arpentent la rue Chouada, la rue des Martyrs, où flottent des drapeaux israéliens. C'est sur cet axe que sont réparties les colonies. Ce qui fut l'artère principale de la ville est interdite d'accès aux Palestiniens. Seuls les Israéliens et les étrangers peuvent y circuler. La rue est stérilisée, selon l'armée israélienne. Et c'est depuis son balcon grillagé que Zlera Moutasseb l'observe désormais.
Vous pouvez voir que les colons peuvent conduire leur voiture en toute liberté. Ça me rend triste. J'ai beaucoup de souvenirs dans cette rue de quand j'étais enfant ou étudiante. Et maintenant, qu'est-ce que je vois ? La rue Chouada, au travers de cette magnifique cage. J'ai installé ce grillage sur le balcon, car je recevais souvent des pierres. Et les colons ont essayé à maintes reprises de monter chez moi depuis la rue. Donc, pour ma sécurité, j'ai installé ça pour protéger la maison et ma famille.
Zlera, qui vit avec sa mère âgée, a ouvert une crèche dans son immeuble pour maintenir de la vie, dit-elle, dans ce pâté de maisons peu à peu abandonné par ses habitants.
Les autres maisons sont vides, oui. Les gens ne peuvent pas vivre ici, car les portes d'entrée sont condamnées. Il n'y a pas de possibilité d'entrer et de sortir. Moi, j'ai trouvé une solution. J'accède à ma maison par derrière, parce que nous avons abattu le mur qui me séparait de mes voisins. Mais pour les autres, c'est impossible.
Une situation absurde pour la quinquagénaire, alors qu'à Hébron, juifs et musulmans ont vécu en paix durant des siècles.
Tout allait bien, nous vivions ensemble, comme en famille. J'ai connu beaucoup de gens qui avaient des voisins juifs. Et ils m'ont raconté de superbes histoires qui montrent combien leurs relations étaient bonnes. Durant les fêtes juives, ils laissaient leurs enfants à des familles musulmanes. Ils avaient ainsi le temps d'aller prier. Et les familles musulmanes faisaient de même. Elles faisaient garder leurs enfants aux familles juives pour aller à la mosquée. Ils célébraient les mêmes fêtes religieuses ensemble. L'Aïd, le Ramadan, la Pâque juive, le Nouvel An, toutes les fêtes.
Mais l'histoire récente d'Hébron est jalonnée de massacres et de violences dont les photographies recouvrent les murs du musée installé au sous-sol de la colonie de Beit Hadassah.
Shalom everyone. Okay. Welcome.
Tzipi Schlissel y relate à de jeunes visiteurs le massacre de 1929, lorsque 67 juifs d'Hébron ont été assassinés au cours des révoltes arabes qui enflammèrent la Palestine du mandat britannique.
Le massacre a eu lieu en 1929. C'était un vendredi. Les Arabes ont attaqué la communauté pendant le Shabbat. Ils ont entendu les Arabes crier « Il faut abattre les Juifs ». Ils ne voulaient pas croire que leurs voisins et amis allaient venir pour les tuer. C'était avant la création d'Israël et avant cette pseudo-occupation. 70 ans après, Benjamin Netanyahou était Premier ministre et a signé le protocole d'Hébron et a accordé aux Arabes 97% de la ville. Tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne soit attaqué et je ne me doutais pas que je serais concernée d'aussi près.
La quadragénaire, dont les parents vivaient également à Hébron, partage son histoire personnelle.
Il y a 18 ans, un terroriste arabe est entré par la fenêtre du domicile de mes parents et a poignardé mon père, encore et encore, en plein cœur. Et il a jeté un cocktail Molotov dans la maison qui a pris feu. Et le terroriste s'est enfui. Il a épargné ma mère.
And this is our story.
C'est notre histoire.
Dans cette guerre des mémoires, pas de mention du massacre du tombeau d'Abraham, qui vit périr 29 musulmans en prière sous les balles d'un colon au lendemain de la signature des accords d'Oslo. Hébron est un terreau de haine et c'est pour tenter de contenir cette violence que des équipes d'observateurs internationaux sillonnent H2. Chaque matin à l'aube, le Suisse Tristan Chopard du programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël se poste en face de la colonie de Beit Hadassa pour surveiller le chemin des écoliers palestiniens.
Notre mission consiste à observer le checkpoint 55, qui est en fait un simple escalier avec une porte reliée par une ficelle que les soldats utilisent pour ouvrir et fermer la porte. Et tous les enfants vont traverser cette porte pour accéder à l'école. Ce qu'on appelle, c'est une présence protectrice. Donc c'est juste montrer que les internationaux sont là et qu'ils voient le travail des soldats. Donc si les soldats ou les colons veulent attaquer les enfants, ils vont peut-être y réfléchir deux fois puisque la présence internationale est là.
Pourtant, pas question pour ces équipes d'intervenir alors que les attaques se multiplient de part et d'autre depuis l'automne 2015.
On appelle Hébron le lion endormi. Enfin, c'est un peu ce que les Palestiniens disent. C'est le surnom qu'on donne à la ville. Et on va dire que cette ville peut être très calme, mais dès qu'on met le feu aux poudres, c'est celle qui va exploser le plus vite possible. Et donc, c'est là qu'on peut voir le plus de tension entre l'armée et les Palestiniens, ou entre même les colons et les Palestiniens. Je pense qu'on sent ça. On le voit dans les yeux des soldats. On le voit dans le comportement des enfants. Ils deviennent soudainement beaucoup plus silencieux. Ils essaient de faire moins de bruit. Et on voit qu'il y a vraiment une tension latente. Imagine que le conflit est difficile à trouver une solution. On parlait à certains soldats dernièrement. Ils nous disaient qu'ils eux-mêmes ne comprenaient pas vraiment la situation et qu'ils n'avaient aucune solution pour ce conflit.
Les soldats, ils sont près de 2000 à être déployés à H2, pris en étau entre les colons et les Palestiniens. Et c'est pour leur donner de la voix que depuis 10 ans, l'association Brisons le silence, composée d'anciens conscrits israéliens, organise des visites d'Hébron. Objectif, livrer des témoignages sur la réalité de l'occupation.
Donc c'est le premier livre de témoignages que Brisons le silence a publié. Et un soldat raconte sa participation à une violente patrouille ici à Hébron. Il dit, c'était après une nuit froide qu'on avait passée là-haut, après une longue nuit d'échange de coups de feu dans la ville. Les Arabes avaient commencé à tirer sur les colonies et on a riposté. Donc on allait sur les hauteurs pour montrer notre présence parce qu'ils avaient beaucoup tiré. Et nous on tirait aussi, dans les rues, sur les maisons. Moi, mon boulot, c'était de tirer sur les lampadaires. Et on était si contents d'avoir l'opportunité de tirer sur des lampadaires et sur des voitures. Il n'y a rien de plus cool que d'entendre un lampadaire exploser après l'avoir visé. Et je me souviens juste d'avoir été absorbée par cette réalité. Comment je me suis plongée dedans sans avoir conscience de ce que je faisais, sans même y avoir pensé. Peut-être que j'y ai réfléchi plus tard, mais où est le problème ?
Composée d'étrangers, l'Assemblée écoute éberluée ce témoignage enfantin teinté d'absurdité. Mais pour Frima Boubas, membre de Brisons le silence depuis qu'elle a fini son service militaire, c'est une voix importante.
Ce que le soldat décrit, c'est cette action très basique de témoigner sans accuser quelqu'un d'autre en disant « il a fait quelque chose de mal » ou « il a fait quelque chose contre les règles ». Mais il dit juste « c'était les règles, je les ai appliquées, j'en suis responsable ». Même si c'était pendant la seconde intifada et que c'était une période très tendue. Ce qui nous semble important, c'est de montrer ce que l'occupation nous amène à faire. et de montrer quelle était la situation à Hébron à l'époque, mais aussi aujourd'hui, car aujourd'hui, il y a encore des maisons abandonnées. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est vraiment une période qui a transformé la ville. Et nous devons prendre cette responsabilité, nous qui avons servi à Hébron, ou tous ceux qui sont venus ici, et bien sûr nos amis, notre famille, la société israélienne, pour dire qu'une fois que l'on a rencontré cette réalité ou que l'on a entendu ces histoires, nous devons la changer.
Menée par Frima Boubas, une cinquantaine de personnes s'approchent de la colonie de Tel Romeda.
Donc nous voyons une colonie, des maisons palestiniennes de l'autre côté, une base militaire, tout ça dans une zone très dense.
Mais impossible de rester dans la colonie. Le groupe est accueilli par des enfants à coups de jets d'eau et de pierres, sous l'œil indifférent de leurs parents et des soldats. Originaire d'Allemagne, Joachim Acker est atterré.
C'est totalement absurde de voir que de si jeunes enfants peuvent être remplis de haine.
And this is the next generation. And they should negotiate then about peace.
Et c'est la prochaine génération qui va négocier la paix.
À quelques pas, devant une maison adossée à cette minuscule colonie, le groupe des jeunes contre la colonisation a planté un drapeau palestinien haut dans le ciel. Issa Amro, qui y accueille des adolescents et des jeunes adultes, a fait de la non-violence son cheval de bataille après le déchaînement de la seconde intifada.
As Palestinians, we had three choices.
En tant que Palestiniens, trois options se présentaient à nous. Laisser tomber et accepter la coexistence avec l'occupation en étant des citoyens de seconde zone, s'échapper et partir à l'étranger, ou bien résister pour nos droits, mais de manière non violente. J'ai choisi la troisième option, celle de ne pas laisser tomber et de résister par la non-violence. Donc, en 2007, j'ai créé les Jeunes contre la colonisation pour rassembler des Palestiniens sous cette résistance non-violente. Et j'ai réussi, car beaucoup de jeunes Palestiniens ont commencé à participer à des activités, et cette culture de non-violence est devenue attractive pour les jeunes et pour les familles. Et en 2009, nous avons commencé une campagne pour demander la réouverture de la rue Chouada aux Palestiniens. Nous organisons chaque année une manifestation le jour de l'anniversaire du massacre de la mosquée d'Abraham.
Et malgré des années de militantisme pacifiste, la rue Chouada leur est toujours interdite. Accusée d'incitation à la violence par un tribunal militaire israélien, Issa Amro sera jugé en juillet suite à des plaintes de colons qu'il rejette en bloc. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, un avenir sombre pour le trentenaire qui prédit la même chose pour sa ville natale.
We are in 2017 now and I see a lot of changes.
Nous sommes en 2017 et j'ai vu beaucoup de changements. La ville palestinienne devient bleue et blanche, ce sont les couleurs du drapeau israélien. Ce qui veut dire qu'elle fera bientôt partie d'Israël, qui essaye de prendre de plus en plus de maisons, de terres, et qui change l'identité de nos rues palestiniennes qui deviennent peu à peu israéliennes. Donc je ne vois qu'un avenir sombre pour Hébron, et même pour la Palestine.
For Hebron and even for Palestine.
Un avenir sombre pour le trentenaire qui prédit la même chose pour sa ville natale.
Thank you.